Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous du journal de la radio Nzambagate Kakawe. Nous sommes mardi 3 mai 2022, les titres de cette édition. Au moins un soldat tué, près de 40 portés disparus et une vingtaine d'autres blessés. C'est en tout cas le bilan des sources militaires sur place dans le contingent de l'armée burundaise en Somalie, la NISOM. C'est après l'attaque du mouvement terroriste Al-Shabaab dans la matinée de ce mardi à Senbara, face à plus de 130 km de Mogadiscio. On fait le point et le début de ce journal. La liberté de la presse au Burundi reste préoccupante. Aucune avancée selon l'Observatoire de la presse burundaise et l'Union burundaise des journalistes. Les deux organisations dressent un bilan plutôt négatif à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce mardi 3 mai 2022. Il menace de poursuivre les auteurs présumés du détournement des fonds publics dans les secteurs des mines et des marchés publics. Il, c'est le président burundais Évariste Ndayishimiye. De l'avis de l'organisation Parcel, cette volonté politique ne sera réalisée que si le président commence à faire le ménage dans son propre camp. À suivre dans ce journal, Faustin Ndikumana. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Un soldat de l'armée burundaise du 61e bataillon Amisom est tombé dans une embuscade d'Al-Shabaab dans la matinée de ce mardi. Près de 40 disparus et une vingtaine d'autres blessés. Cette attaque a ciblé le poste de commandement situé à Senbaraf, dans la province du Moyen Chabel, à plus de 130 km de la capitale Mogadiscio. L'armée burundaise se réserve de tout commentaire sur le bilan de cette attaque, une attaque déjà revendiquée par le mouvement terroriste Al-Shabaab. Plus de détails avec Beni Axelakan.
Cette attaque du poste de commandement du 61e bataillon Amisom des forces de transition de la Somalie à Senbaraf a eu lieu vers 4h30 de ce mardi. Les sources militaires parmi les rescapés indiquent avoir été assourdis par une explosion qui s'est suivie par un assaut aux armes automatiques avec plusieurs explosions lancées par les Al-Shabaab. Les militaires burundais se sont alors repliés en toutes directions. Jusque vers midi de ce mardi, ils ne s'étaient pas encore rassemblés. Certains des militaires nous ont révélé qu'ils sont retournés dans l'après-midi de ce mardi après l'intervention des hélicoptères qui évacuaient les blessés. Les mêmes sources indiquent que 22 militaires blessés ont été évacués vers Mogadiscio. Toujours selon des militaires du 61e bataillon, un militaire a succombé à ses blessures. Ceux qui sont retournés étaient autour de 100 et 10 militaires. Les sources militaires indiquent qu'ils n'avaient pas encore retrouvé une trentaine des militaires qui seraient portés disparus. Le poste de commandement de Senbaraf avait un effectif de plus de 150 militaires qui forment une compagnie équipée des mortiers, des armes d'appui et des dotations individuelles. L'armée burundaise n'a pas encore communiqué sur cette attaque.
Merci Beni Axela. Le mouvement Red Tabara appelle le gouvernement burundais à organiser un dialogue inclusif pour que les élections législatives de 2025 et les élections présidentielles de 2027 soient des élections crédibles et rassurantes pour tous. Ce mouvement réagit aux récents propos du président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui demandait à ce mouvement de déposer les armes et de participer librement à ces élections s'il veut accéder au pouvoir. Le point avec Trifine Kaniwao.
C'était le 28 avril de cette année, lors d'une prière des militants du parti CNDD-FDD, quand le président Évariste Ndayishimiye avait dit que le mouvement Red Tabara n'avait aucune raison de chercher à prendre le pouvoir par la voie des armes. Il avait tout simplement appelé ce mouvement à venir participer aux élections prochaines, précisant que les portes lui étaient grandement ouvertes.
Vous avez vu le communiqué du mouvement Red Tabara. Ils veulent diriger le pays, ils veulent le pouvoir. Mais les portes leur sont ouvertes, qu'ils viennent le prendre à travers les élections. En 2025, il y aura des élections législatives qui viennent se faire élire. En 2027, qu'ils viennent aussi participer aux élections présidentielles. Personne ne les en empêche s'ils veulent prendre le pouvoir. Ça ne sert à rien de prendre les armes si les portes sont ouvertes à n'importe qui veut prendre le pouvoir. Après tout, c'est au peuple de décider de celui qui est capable de diriger ou de satisfaire à ses besoins.
La réponse du mouvement Red Tabara ne s'est pas beaucoup fait attendre. Dans son communiqué sorti ce mardi 3 mai, il demande au pouvoir d'Aïchimiyé d'organiser un dialogue franc et inclusif pour discuter des conditions favorables et rassurantes pour la tenue de ces élections crédibles. Justine Nwaadi, porte-parole de ce mouvement.
Les préalables pour que de telles élections soient possibles sont nombreuses. Et c'est cela qui doit faire l'objet de négociations. Les conditions pour des élections crédibles en 2025 et 2027 ne sont pas du tout réunies. L'environnement sécuritaire et politique, l'absence d'espace démocratique pour les partis politiques, les médias et la société civile, les incessantes violations des droits de l'homme, l'absence d'une véritable justice, etc., tout cela ne permet pas d'envisager des élections démocratiques, libres, inclusives et transparentes.
Le mouvement Red Tabara soutient l'idée qu'en matière d'élection, c'est seul le peuple qui est l'arbitre, mais qu'il faut absolument éviter que les élections soient des mascarades électorales.
Merci Tréfine, 105 tricycles appelés communément Tuk-Tuk, plus de 800 motos et 3 machines appartenant au groupe Ladakh, tel est le bilan officiel de l'incendie qui s'est déclaré ce lundi dans un entrepôt se trouvant dans la capitale économique, non loin du port de Bujumbura. Le même incendie a ravagé tout le stock de médicaments de l'ONG Médecins Sans Frontières, selon toujours le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'origine de cet incendie est accidentelle, comme c'est précisé dans un tweet de ce ministère. Il y a quelques mois seulement, un incendie causé par un court-circuit électrique, selon la police, avait occasionné d'autres dégâts des marchandises dans une galerie située au centre-ville de Bujumbura.
Inzamba.
On parle liberté de la presse à présent, même si le Burundi avait manifesté de progrès dans le paysage médiatique dans la région des Grands Lacs avant 2015. La situation a changé avec le troisième mandat du fait président Pierre Nkurunziza. C'est ce qu'annonce le rapport de Reporters sans frontières, un rapport publié à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Le nouveau rapport de 2022 indique également que même après l'élection d'Évariste Ndayishimiye, la situation ne s'est pas améliorée, même s'il avait promis de normaliser les relations avec les médias. Les détails avec Vanessa Mohitek.
Selon le rapport, le Burundi qui était réputé dans la région des Grands Lacs, dans le paysage médiatique, a basculé en 2015 avec le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Les radios indépendantes ont été détruites. Une centaine de journalistes contraints à s'exiler. L'espoir qui était revenu avec l'élection d'Evariste Ndayishimiye en 2020, mais sa promesse de normaliser la situation n'a pas été honorée jusqu'à ce jour. Le parti au pouvoir se montre intolérant, à toute voix discordante. Des spots médiatiques et muselés tellement que les journalistes ne peuvent pas faire ce que le pouvoir ne veut pas. Le Conseil national de la communication ne joue pas son rôle étant donné que ses membres sont désignés par le pouvoir. Reporters sans frontières donne des exemples qui corroborent que la situation n'a pas changé après l'élection de 2020 qui a porté au pouvoir Evariste Ndayishimiye. En effet, 4 journalistes du journal Iwachu ont été emprisonnés fin 2020. Ils ont passé plus d'une année en prison alors qu'ils exerçaient leur métier en bonne et due forme. En plus, le pouvoir signe des DFDD pour la création d'une peur aussi des journalistes qui optent pour la résignation et l'autocensure. Le discours du président Evariste Ndayishimiye en 2021 a empiré la situation. Il s'en est pris publiquement à des journalistes exerçant à l'étranger. Il les a accusés de détruire le pays, indique toujours le rapport. Dans ce classement, le Burundi occupe la 107e place. Il est le 10e dans la sous-région derrière le Kenya, qui est classé 69e.
La situation des médias au Burundi n'a pas changé depuis 2015. Les journalistes n'ont plus droit de traiter les sujets en rapport avec les violations graves des droits humains, le détournement des biens publics et bien d'autres sujets sensibles. C'est ce que déplore Innocent Mourosi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, commentant un communiqué de l'Union burundaise des journalistes et de l'Observatoire de la presse burundaise à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. On écoute Innocent Mourosi, il est président de l'Observatoire de la presse burundaise.
Malgré la réautorisation de Bonnechet et de Sanganiro sous contrôle, sous contrainte, que Il y a plus de 100 journalistes qui sont partis en exil, 7 responsables de ces médias indépendants qui ont été condamnés à des peines de prison à la perpétuité de manière totalement fantaisiste, et qu'il y a des collègues qui ont été tués, Christophe Ngezabahizi et toute sa famille, sa femme et 3 enfants. Notre collègue Jean Bigirimana qui est porté disparu, aux dernières nouvelles ce sont les services de renseignement qui l'ont enlevé. Tous ces crimes, tous ces actes dans toute impunité. Donc nous appelons le gouvernement burundais à revenir à la raison, à remettant à l'ordre du jour l'accord de paix et de sécurité d'Arusha et de la loi sur la presse qui en découlait, qui permettait que les citoyens s'expriment, que ce soit les organisations politiques, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les citoyens ordinaires et les médias, ainsi que les médias travers lesquels ils s'exprimaient, que cette loi-là, de 2013, qui sortait de l'accord d'Arusha, soit rétablie et que les gens soient rétablis dans leurs droits. Si je pouvais dire quelque chose sur le classement fait par Reporters sans frontières dans la sous-région qui classe le Burundi en deuxième position derrière le Kenya, je crois que c'est totalement fantaisiste. C'est totalement fantaisiste. Ce classement de Reporters sans frontières est incompréhensible. Soit ils ne connaissent plus rien à ce qui se passe dans notre pays, soit il y a d'autres raisons. Ne comprenons absolument pas ce type de classement totalement fantaisiste quand tout le monde sait ce qui se passe au Burundi. Sur le terrain des médias. Il y a une multiplication des médias, il y a une multiplication des radios, des télévisions, mais il n'y a pas de liberté puisqu'il y a des questions sur lesquelles les gens ne peuvent plus toucher sans risque de se faire réprimer. Nous avons été témoins récemment encore de la conférence de presse de 2 organisations de la société civile agréées exerçant au Burundi qui a été brutalement interrompue par la police qui s'est introduite dans la salle pour dire « vous n'avez pas le droit de communiquer ». Donc c'est des choses qui sont gravissimes, que bon, si certains décident de prendre cela à la légère, c'est leur droit, c'est leur problème, mais nous pensons que ces choses sont suffisamment graves pour les prendre avec le sérieux et la gravité nécessaire.
Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, ne peut opérer aucune réforme économique tant que son entourage garde une main dans différents crimes économiques. C'est ce qu'indique le président de l'association PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Faustin Dikoman a réagi après le message du président de la République ce dimanche à l'occasion de la Journée internationale du travail. Le président de la République a mis en garde ce qu'il qualifie d'une poignée de gens qui continuent de s'approprier des fonds publics, surtout dans le secteur minier et des marchés publics. Pour Faustin Dikoman, Evariste Ndayishimiye devrait d'abord assainir dans son camp. On l'écoute.
Nous, depuis longtemps, nous attendons les réformes. Les réformes ont été annoncées par le président depuis son investiture et une année après, même quand il s'adresse à la nation, au fait de nouvel an, il revient sur ces réformes. Nous avons tenu, même l'an passé, un forum national économique où on a parlé de ces réformes, mais la mise en application de ces réformes, c'est ça. Mais je dois dire que, en politique, on ne réforme pas et la politique avec les mêmes hommes. Non, non, on ne forme pas la politique avec les mêmes hommes. C'est la clé de changement qui doit être utilisée. Donc, il faut changement de tête pour qu'il y ait du sang nouveau dans l'administration, dans les hautes sphères politiques, et comme ça, les choses vont changer. Mais si ce sont les mêmes hommes, avec les mêmes pratiques, il est difficile de changer. Il faut du sang nouveau dans l'administration pour que des réformes puissent être mises en application. Si on devait montrer que les choses commencent à changer, on devait d'abord voir que la déclaration de biens devient effective.
Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. Merci à vous tous, chères auditrices, auditeurs, pour votre aimable écoute. À la présentation, Alexandre Mingeko, je vous souhaite de passer une agréable soirée ou une agréable journée suivant la position de votre écoute. Au revoir et à la prochaine.